Bon vendredi, Juma Mubarak. Bienvenue sur Diguez-nous Diaspora Podcast, le podcast qui vous présente des femmes inspirantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aminata Fati, fondatrice de l'agence immobilière DEME pour la diaspora, qui aide les Sénégalais et les Africains de la diaspora à investir au Sénégal. Elle possède également une entreprise de location de voitures et a fondé une association caritative pour les jeunes filles et les femmes victimes de mutilations génitales appelée Réparer les filles. Et sur son compte Instagram, vous êtes une excellence. Elle partage également des conseils en développement personnel. Bienvenue. Bonjour Aminata, bienvenue sur Diguez-nous Diaspora.
Bonjour Kodou, je te remercie pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup d'être là. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui est Aminata Fati et nous parler un peu de ton parcours?
Ok, donc je m'appelle Aminata Fati, j'ai 39 ans, je suis maman d'une fille qui vient d'avoir 11 ans, je suis mariée depuis peu. Et je suis entrepreneur. Je vis au Sénégal, à la Somone, sur la petite côte, et j'entreprends.
La chance.
Donc, ouais, franchement, j'ai de la chance.
La chance, mon rêve.
Ah, mais je t'invite à poursuivre ton rêve parce que ça vaut vraiment le coup. Je suis venue en 2019. En juillet 2019, je suis arrivée. Sur la petite côte, j'ai quitté la France, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai bossé, j'ai fait mes études, j'ai eu ma fille, etc. Et on est arrivés toutes les deux en juillet 2019 sur la petite côte. J'ai deux vies différentes ici et en France, parce que quand j'étais en France, j'ai évolué dans le secteur social pendant plus de 10 ans. Et j'ai été, mes derniers postes, j'étais directrice d'association. J'ai démissionné de la dernière asso dans laquelle j'étais pour venir m'installer ici et je ne souhaitais plus être salariée, ça c'est un projet que j'avais aussi depuis la France, donc j'ai tout de suite enchaîné sur la création d'entreprises et donc aujourd'hui j'ai plusieurs entreprises, notamment DEME, l'agence pour la diaspora, qui est une agence qui aide la diaspora à investir ici au Sénégal, et j'ai une autre société qui s'appelle Sensali Auto, qui fait de la location de voitures. Et ensuite, j'ai aussi des casquettes associatives. Mmh. Et je suis quelqu'un de très, très connecté sur les réseaux sociaux. Donc, je partage pas mal de vidéos sur mon expérience. Mon expérience au sens large, c'est-à-dire comment j'ai fait pour venir m'installer ici avec ma fille. Je parle aussi pas mal de business, pas mal de mon expérience en tant que femme. Donc voilà, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube et puis j'ai un blog. Et également, j'ai écrit un livre de développement personnel parce que ça fait partie de mes passions avec l'entrepreneuriat. Bon, voilà grosso modo ce que je fais et qui je suis.
Une maman bien occupée. Tu dois être super, super bien organisée, je suppose. Hein, pour,
écoute, je ne sais pas. Je tâtonne toujours. C'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre. Ça demande tout le temps, sans arrêt, des réajustements parce que moi, je suis très, je suis très hyperactive. J'adore bosser. J'aime bien ce que je fais. À côté de ça, c'est vrai que j'ai un foyer. J'ai ma fille qui est à l'école là, qui rentre bientôt en 6e. Et du coup, il faut trouver le bon équilibre pour être présent, pour pas louper le coche, tout en menant ses activités. Donc, effectivement, j'ai le sens aigu de l'optimisation du temps. Je suis très douée pour ça. Je délègue facilement aussi, ce qui me permet d'avoir toutes ces activités, parce que j'ai des équipes derrière, bien sûr. Et ça me permet justement de dégager autant que possible du temps pour ma famille et puis pour moi aussi.
Ouais, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussée à... C'est vrai que tu es sénégalaise, d'origine sénégalaise, mais bon...
Je suis pas d'origine sénégalaise.
Autant pour
justement.
Moi. Autant ouais. Pour moi.
Oh. Non, tout le monde pense que je suis sénégalaise, c'est normal.
Bah oui, Aminata et tout.
On se dit c'est logique.
Ouais. Et puis Fati aussi, c'est pas la première fois que je vois ce nom de famille. Donc tes parents sont d'où?
Bah, mes parents sont de Gambie, ce qui explique le nom, parce qu'effectivement, oui, Casamance, il y a des Fatimes.
C'est Sénégal, Gambie, ouais. comme on dit, c'est nous dans nous.
C'est nous dans nous, je te jure, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Et en fait, mes parents ma mère a grandi au Mali, donc petite, elle a quitté le Sénégal, elle est partie au Mali. Et moi, comme j'ai grandi avec ma mère, puisque mes parents se sont séparés quand j'étais petite, j'ai beaucoup plus connu la culture malienne, donc Bambara.
D'accord.
Et tous les voyages que j'ai pu faire quand j'étais jeune, principalement, et ça a commencé par le Mali, où était installée la famille de ma mère. Voilà, donc plutôt d'origine malienne et gambienne.
Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France et pourquoi le Sénégal et pas un autre pays d'Afrique?
Alors, déjà, ce qui m'a poussée à quitter la France, c'est que depuis longtemps, j'avais envie de découvrir, de mieux connaître le continent. Depuis jeune, hein, depuis ado, je lisais beaucoup sur l'histoire de l'Afrique, etc. Et je me sentais vraiment connectée avec le continent. Et je me suis toujours dit que pour vraiment mieux connaître mes origines, ce serait plus simple d'être sur place. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Et quand j'ai eu l'opportunité, quand j'ai eu la maturité suffisante, que je me sentais prête, effectivement, je suis partie parce que j'ai une double culture et que j'avais envie de creuser un peu la culture africaine. Et le Sénégal, ça n'a pas été le premier choix entre guillemets, parce que moi, automatiquement, étant donné que ce que je connaissais, c'était le Mali, parce que j'ai connu le Sénégal, la Gambie aussi, mais depuis petite, c'est le Mali que je connais. Bah, je m'étais dit, je vais aller m'installer au Mali. Mais les tentatives que j'ai faites pour aller développer des projets professionnels au Mali n'ont rien donné. Et du coup, bah, je me suis un peu détournée de cette destination. Quand j'ai découvert la Gambie très tard, parce que j'ai pas grandi avec mon père, donc les liens s'étaient un peu délités avec ce pays-là. Quand j'ai découvert, j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal aussi de venir m'installer en Gambie. C'est la découverte, donc je peux faire un an et puis voilà. Mais après, c'est plus de l'ordre de l'intuition où à la dernière minute, j'ai freiné. J'ai dit non, je le sens pas. Et après, quand j'ai continué à creuser mon histoire de partir m'installer en Afrique, j'ai trouvé que le Sénégal, en fin de compte, c'était pas mal parce que je connaissais en tant que touriste. Hein, j'étais déjà venue. Ma fille aussi. Et puis, bah, c'est à côté de la Gambie, c'est à côté du Mali. C'est un pays francophone, c'est un pays stable. C'est pas mal. Et moi, je me sens pas attachée spécifiquement au Mali ou en Gambie ou au Sénégal. Je me sens plutôt africaine. Donc, ça ne posait pas de problème d'aller dans un autre pays que celui de mes parents. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi le Sénégal. Et effectivement, ça s'est avéré... déjà, j'ai changé de méthode parce que là, j'ai carrément plongé les deux pieds dedans en me disant, il faut que je sois sur place, que je faisais pas auparavant. Je faisais plutôt des allers-retours. Et donc, en changeant de méthode et puis en arrivant dans un pays où c'était quand même relativement facile, c'est comme ça que voilà, je suis restée depuis 2019. Ouais, ça va faire 4 ans là bientôt que je suis là.
Ok. Et donc, pour toi, quelles ont été les plus grandes différences culturelles que tu as ressenties en passant de la France au Sénégal?
Bon, c'est un autre... je suis dans un autre monde, un autre univers. Effectivement, ce qui est frappant dans la vie de tous les jours, c'est le rapport qu'on a aux autres. C'est le fait que au Sénégal, on est vraiment... On dit le pays de la teranga et c'est ça, en fait. Il y a une chaleur humaine, une vraie chaleur humaine.
Absolument.
Qu'on retrouve pas forcément quand on est en France où on est beaucoup plus dans l'entre-soi. On se dit pas bonjour chaleureusement quand on arrive. Ce qui me fait rire, c'est que maintenant que je suis habituée au Sénégal, quand je rentre en France, je salue les gens à la sénégalaise et en fait, je suis toujours en décalage. C'est-à-dire.
Ouais, ouais.
J'arrive à la boulangerie. Oui, vous allez bien? Et les gens me regardent en mode. Mais
et puis le français, il est pas chaleureux
pas
comme
chaleureux.
Ça.
Hein.
C'est,
non.
Ouais, c'est,
non,
là, c'est
non. Ça, c'est frappant.
Ouais. Et aux États-Unis, ils sont plus comme les Sénégalais. Genre, les gens vont te croiser, ils vont te parler, te faire des compliments et avoir des longues conversations et ils vous connaissent même pas. Le français, il est grognon.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'il y a une différence.
Ah, mais c'est ça, tu dis bonjour, c'est à peine si.
Ouais, c'est genre, pourquoi tu me dis bonjour?
Donc, c'est rigolo, mais effectivement, ça, c'est une grosse différence qu'on peut vivre au jour le jour. Et donc, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans un pays où voilà, on prend le temps de saluer les gens et d'avoir une vraie relation avec les gens. Et après, bah, effectivement, de toute façon, dans le mode de vie, c'est sûr qu'ici, on la joue beaucoup plus collectif. En France, on est beaucoup plus individualiste. Et, et ça, j'avoue que moi, c'est quelque chose que je reproduis quand même un peu au Sénégal, dans le sens où j'ai pas l'habitude d'être dans tout le temps en collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai besoin aussi de mon intimité, d'être chez moi.
Ouais,
de,
absolument.
Tu vois, ça, c'est une grosse différence aussi. Et puis, c'est important de le, voilà, de l'avoir en tête et de, et de trouver encore une fois le bon équilibre entre je m'intègre, mais en même temps j'ai conscience aussi de mes propres besoins et de ma propre culture, parce que moi je suis née, moi je suis arrivée au Sénégal, j'avais 35 ans, donc mon éducation elle est faite, je suis culturellement, je suis complètement marquée, donc voilà, mais franchement ça va, ça. Étant donné que j'ai pas de famille sur place non plus, je suis pas envahie par la famille, je suis pas trop envahie par les aspects sociaux. J'ai pas besoin tous les week-ends d'aller dans un mariage ou dans un baptême, machin. Je suis pas, voilà, j'ai pas du monde tout le temps qui débarque à la maison, parce qu'en plus moi je bosse à la maison. Et ça ici, c'est vrai que ben les gens ils vont venir facilement se poser chez toi. Et alors que toi, t'as du taf, mais
ça fait partie des challenges. Les gens, ils t'appellent pas avant de venir.
Exactement, exactement. Donc voilà, c'est des différences comme ça. Mais une fois que tu les as intégrées, tu gères. Après, voilà, il y a beaucoup. Bah, après, la présence aussi très forte de la religion, contrairement à la France. Bon, en France, par exemple, je voyais beaucoup de gens jeûner pendant le Ramadan, puisque il y a une population musulmane quand même assez importante, en tout cas moi dans mon entourage, mais c'est vrai que en France je ne voyais pas de chrétiens faire le jeûne, alors qu'ici, même s'ils sont minoritaires, et ben je les trouve beaucoup plus pratiquants, par exemple, alors qu'ils sont minoritaires ici, ils sont majoritaires en France. Donc je vois que voilà, la religion, que ce soit la religion musulmane ou chrétienne ou animiste, parce qu'il y a encore des gens qui pratiquent
qui sont animistes,
dans leur culture d'origine. Ouais, c'est très présent dans le quotidien.
Absolument. Bon, l'Africain en général, qu'il soit les chrétiens africains sont plus pratiquants que qu'en Europe ou dans l'Occident souvent. Donc après ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu t'es installée, je suppose qu'il y a certainement dû y avoir des défis. Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as été confrontée en t'installant au Sénégal, en établir ton entreprise, tes entreprises et tout ça?
Bah justement, le plus gros défi, c'est de subvenir à tes besoins, parce que c'est un pays capitaliste. Très peu de sécurité sociale. Donc tu te débrouilles. Tu peux pas compter sur l'État pour avoir un filet de sécurité. On est dans un système libéral, hein, vraiment. Donc quand tu débarques, bah il faut assurer tes arrières. Il faut que ton business il fonctionne, parce que t'as pas le choix. Bon, après tu peux être salarié. Il y a des gens qui font le choix de venir en tant que salarié. Certains en tant qu'expat, ça c'est l'idéal évidemment. Mais moi, j'étais pas expat et j'étais pas salarié. Donc vraiment, avec cette urgence de, bah il faut que l'argent rentre, parce que même si je viens avec des économies, ça fond comme neige au soleil. Et si l'argent ne rentre pas de par mes activités entrepreneuriales, je pourrais pas rester. Donc ça a été moi les deux premières années, j'ai pas levé la tête du guidon. Ma fille elle me disait tout le temps tu travailles trop, mais je lui disais j'ai pas le choix, parce que faut payer les factures, et tu sais t'as pas de CAF, t'as pas d'ACEDIC, tout le système que nous on connaît en France là, il y a pas tout ça. Voilà, tu payes tes soins, tu payes ton école plein pot. Bon voilà, donc ça a été le gros défi, hein, vraiment de pouvoir subvenir à mes besoins. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et j'étais aussi dans un état d'esprit où bah j'ai pas le choix. Déjà j'ai pas envie de rentrer et j'ai pas le choix. Faut y aller.
Il faut que ça marche.
J'avais pas le choix. J'étais maman solo, donc je pouvais pas compter sur un deuxième salaire, sur un filet de sécurité à ce niveau-là. Donc, j'étais vraiment déterminée à ce que ça fonctionne, quoi. Ça, c'est le plus gros challenge. Et pour tous ceux qui viennent, c'est vraiment cet aspect-là qui est un défi à relever, quoi.
Ouais. Donc, quand tu viens, il faut vraiment avoir assurer tes arrières et avoir des économies. Et, ouais. Parce que, enfin, ouais. Dans l'entrepreneuriat, ça marche pas. Souvent, ça marche pas tout de suite. Ça prend
du
temps.
Ah oui, ça prend du temps. Hein. Ah oui, ça prend du temps. Et puis, même quand ça marche, les finances de l'entreprise, c'est pas tes finances. Donc, à un moment donné, ton entreprise, même si elle fonctionne bien, ça veut pas dire que toi, tu vas tout de suite pouvoir te payer le salaire que tu veux et tout. Il y a toujours un décalage, il y a toujours du temps qui se passe. Donc, il faut que financièrement, tu sois prêt à affronter tout ça, quoi. Il faut payer l'école si tu as des enfants, le loyer, les transports, etc. Donc, ouais, c'est un vrai défi.
Absolument, absolument. Alors, parle-nous de ton agence. Donc, c'est DEME. Moi, j'allais dire oui. DEME, mais il me semble que tu le prononces DEME, c'est ça?
Exactement.
Comment aides-tu les Sénégalais et les Africains de la diaspora à investir au Sénégal? Parle-nous un peu de l'agence.
Alors, DEME, effectivement, c'est DEME, ça veut dire aider en Bambara.
Ah, OK.
Ouais. Pour la petite histoire. Et en fait, il y a 4 volets dans DEME, dont 2 gros volets qui sont le volet IMO, c'est-à-dire qu'on est sur la petite côte, on fait des lotissements, on vend des parcelles individuelles et on accompagne sur l'administratif et bientôt, j'espère cette année, sur l'aspect construction aussi. Mmh. Et le but, c'est de créer un quartier africain, avec toute cette diaspora qui vient d'un peu partout, sur la petite côte, et d'avoir non seulement des maisons individuelles, bien sûr, mais aussi du business pour créer une vraie dynamique et créer un vrai quartier attractif. Donc là, on est à Pointe-Sarène, on est à Mbodjen, on est à Malikunda. Ce sont des secteurs d'avenir de la petite côte parce qu'il y a les infrastructures qui arrivent, il y a la station balnéaire qui arrive, il y a Econ City, etc. Donc, un secteur très très attractif et qui prend de la valeur année après année.
Ouais, OK. Je t'interromps. Pointe-Sarène, il y a 3 ans ou 4 ans, personne n'en parlait et j'étais tombée dessus par hasard. Ouais. J'ai dit waouh, c'est joli.
Ouais,
et je voulais acheter.
Magnifique.
Je voulais acheter, il y avait pas encore ma sœur, elle allait à cet hôtel-là avec ses enfants.
Comment ça s'appelle? Le Riu. Ouais.
L'hôtel Riu.
Ouais.
Je pense que c'était à 3 ans ou 4 ans.
Ouais.
4 ans, je pense. Et j'ai dit, mince, mais j'aimerais bien acheter. Et c'était genre, je me rappelle, c'était 50 000 le mètre carré. Je sais pas combien ça coûte maintenant. Ça doit être beaucoup
plus
cher.
Si on est plus, oui.
Et, le problème à l'époque, c'était qu'il vendait un minimum de 1000 mètres carrés. Donc c'était 50 millions et moi perso à l'époque-là, je les avais pas.
Ouais.
Les 50 millions. Et je disais mais mince, j'aimerais bien acheter et tout et bon bah j'ai toujours pas acheté mais bon pour la petite histoire, c'est un coin qui m'intéressait. Donc voilà. Je te laisse continuer,
Il faut que je t'envoie des plaquettes de DEME.
On va se parler après le podcast.
C'est vrai que depuis, moi, je suis arrivée. On a commencé, ça fait DEME a un peu plus de 3 ans, je crois. Donc, effectivement, à l'époque, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui étaient sceptiques sur le projet de station balnéaire de la Pointe-Sarène. Les gens n'y croyaient pas. Parce que moi, c'est le discours que j'entendais aussi, alors que moi, au contraire, avec Amadou, mon associé, on était à fond, on se disait, il faut absolument investir ici. Et après, avec le temps, les gens ont vu les réalisations concrètes qui arrivaient et tout, et ça, c'est beaucoup plus, maintenant, tout le monde connaît maintenant. Dès que tu dis Pointe-Sarène, maintenant, tout le monde connaît. Les gens de l'extérieur.
Mbodjen, tout ça, tout le monde connaît. Je pense que Omar Sy, il habite là-bas. Mbodjen ou
exactement.
Quelque chose comme ça.
Omar Sy a acheté une maison à Pointe-Sarène.
Ah ouais, Pointe-Sarène, ok.
Ouais, à Pointe-Sarène. Et puis, il y a le projet de Econ. Alors, c'est pareil, il y a pas mal de gens qui sont sceptiques.
Tu penses que Econ City va se réaliser? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à construire même?
Alors, écoute, ils ont pas. Alors, il y a 2 choses parce que au niveau du village de Mbodjen, Econ s'était engagé à réaliser un certain nombre d'infrastructures pour la population et il en a réalisé. Il en a réalisé.
J'ai entendu des histoires. Enfin, moi, je suis pas trop.
Il y a beaucoup d'histoires. On n'arrive pas à faire le tri. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'histoires qui passent. Moi, je sais pas, puisque je ne connais pas Econ, je ne connais pas. Mm-hmm. Je suis pas dans le cœur du projet, donc je peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Par contre, je sais qu'il a fait des réalisations. Je sais qu'il a terrassé aussi son terrain. Donc, je me dis que c'est en vue de préparer quelque chose. Mais ça date d'il y a au moins un mois parce que j'y suis pas retournée entre-temps. Donc, jusqu'à présent.
Non, mais là, c'est bien. C'est bon à savoir. Ouais.
Ça bouge lentement, mais sûrement. Moi, j'y crois. Je pense qu'il va faire quelque chose. Mais c'est peut-être pas dans les délais aussi courts qu'on imaginait. C'est-à-dire que... Mm-hmm. Voilà, c'est peut-être pas horizon 1 ou 2 ans, mais c'est peut-être plus horizon 4-5 ans, je sais pas. Je sais pas, mais nous, régulièrement, quand on va sur le terrain, on jette un œil de temps en temps pour voir est-ce qu'il y a des machines, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce que il y a quelqu'un sur place ou, voilà. Donc, moi, j'y crois, je pense qu'il faut être patient puisque c'est comme le projet de la Pointe Sarène. Il y avait beaucoup de sceptiques à l'époque et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, bah ouais. L'hôtel, il est là, il fonctionne, l'autoroute, elle est là, tout ce qui était prévu est en train de se faire. Mmh. Donc, ce sont des projets d'envergure qui demandent quand même du temps, quoi.
Ouais, à se mettre
en place. Mmh. Mais c'est magnifique, hein, Pointe Sarène, moi. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai découvert cette zone-là.
Super.
Donc voilà, tout ça, c'est les projets IMO qui sont de ce côté-là. Mmh. On est vraiment sur la petite côte, hein. Nous, on n'est pas Dakar, Voilà, on s'est pas éparpillé, on a fait le choix de rester sur la petite côte parce qu'on a envie ici. On aime la petite côte, on sait qu'il y a un potentiel énorme et c'est pour ça qu'on a concentré vraiment nos efforts sur ce secteur-là. Et côté, on a un volet agro aussi. Donc demain, dimanche, on a une réunion pour présenter notre projet de ferme collective qu'on va mettre en place avec nos clients, pareil, qui sont de la diaspora, qui sont pas sur place, qui ont acheté des terrains et qui ont besoin de les exploiter. Donc, on va leur proposer de mutualiser un certain nombre de choses et de nous déléguer la gestion pour qu'ils puissent générer des revenus, même s'ils sont pas sur place, qu'ils puissent piloter ça à distance. Donc voilà, ça c'est les deux gros volets de DEME, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'aider la diaspora dans cette partie foncière. Voilà, j'ai besoin d'acheter un terrain et je suis à distance, c'est difficile, donc nous on s'en occupe. On s'occupe des papiers, même si ça c'est pas la partie la plus fun et la plus facile.
Ouais.
Mais c'est vraiment ce qui fait la plus-value parce que quand t'es sur place, c'est pas facile. Quand tu es à l'étranger, c'est la croix et la bannière pour obtenir ton titre de propriété, etc. Mm-hmm. Donc ça, on s'en occupe. Et puis vraiment avec l'idée d'accompagner, step by step, d'accompagner. Donc voilà, construction bientôt, Inch'Allah. Bientôt les exploitations agricoles aussi qui vont tourner, etc. On est sur ces types. Et après, sur les volets retour au pays et entrepreneuriat, là, c'est plus aujourd'hui à travers la chaîne YouTube qu'on partage... notre expérience dans ces domaines-là.
Got it. Donc moi je pensais que c'était juste le volet immobilier, donc l'agriculture aussi, et les gens investissent beaucoup plus. J'ai remarqué qu'ils investissent beaucoup plus dans l'agriculture. Donc
il y a de plus en plus de gens qui investissent dans l'agriculture parce que c'est un secteur tellement porteur, tellement prometteur et tellement nécessaire pour nous les Africains. Il y a énormément d'étrangers qui achètent nos terres agricoles et qui exportent la marchandise, qui nous laissent vraiment les résidus ici et qui exploitent les travailleurs sénégalais. Donc c'est important que nous on puisse se saisir de ce secteur qui est un secteur primordial. On sait que demain c'est l'Afrique qui va nourrir le monde, hein. On voit ce qui est en train de se passer là au niveau géopolitique. C'est important que nous Africains on soit pas en retard sur ces questions. Donc il faut qu'on achète des terres, il faut qu'on les cultive et il faut qu'on transforme aussi les produits pour leur donner de la plus-value. Ça aussi ça va être un enjeu. C'est un enjeu déjà actuel très important. Donc, beaucoup de gens... et en fait, même l'agriculture, pour tout te dire, à la base, c'était même pas prévu dans le projet. Au début, on était vraiment sur l'IMO. Et rapidement, on a eu des demandes, en fait, pour avoir des terres agricoles. Et c'est comme ça que petit à petit, on a développé le côté agriculture.
Oui. Mm-hmm. OK. Et donc, d'habitude, tu traites avec, je suppose, des Sénégalais et même des Africains. Dans ton expérience, comment les gens, en général, est-ce que tu as cette information? Comment, à ton avis, les gens font pour trouver les fonds pour investir? Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui cherchent à investir et qui n'ont pas forcément beaucoup de cash flow, beaucoup de moyens? Enfin, je sais qu'il y a, par exemple, si je vois les gens qui sont aux États-Unis, il y a la possibilité d'utiliser la plus-value si tu as une maison et que, qu'elle est financée, et que tu payes un mortgage, je sais pas comment on dit ça en français, que tu payes ton prêt à la banque tous les mois, quand ta maison gagne de la valeur, like, de l'equity, Tu peux utiliser la plus-value sur ta maison et faire un prêt sur ta plus-value et utiliser cet argent-là pour acheter. On sait aussi qu'au Sénégal, les prêts immobiliers sont très chers. Donc, je sais pas, je me demande comment les gens font pour investir. Est-ce que tu sais, d'habitude, les gens prennent la route de la banque au Sénégal ou quel conseil tu peux donner?
C'est vrai que la banque, c'est non seulement les taux sont excessivement élevés et en plus, c'est pas facile d'obtenir un crédit à la banque par rapport aux garanties qu'il faut présenter et tout. Donc déjà, ce que je pourrais te donner comme conseil, dire en fait, c'est qu'au départ d'une entreprise, on met pas beaucoup de moyens, on met ses propres moyens. On n'essaye pas d'être tout de suite sur un produit au top du top. On y va en avançant par étapes. C'est-à-dire proposer un produit basique, pas de mauvaise qualité, mais basique. Et petit à petit, de la cliente, quand la clientèle se forme, on peut améliorer le produit parce qu'on vend et que grâce aux ventes, on peut réinjecter. Et ça, c'est vrai que c'est important que les gens comprennent ça. On démarre avec les moyens du bord tout le temps. Tu peux pas en fait démarrer un projet avec un emprunt sur la tête. C'est beaucoup trop dangereux parce que même si tu fais un bon business plan, t'as un prévisionnel génial et tout, c'est vraiment quand tu vas te confronter au marché, à ta clientèle, que tu vas connaître le potentiel de ton produit. Et donc plus tu vas arriver avec les moyens du bord, avec un produit facile à élaborer, plus tu vas avoir la souplesse de l'améliorer, etc. Donc déjà, au démarrage, pendant un an, tu vas pas chercher des fonds ailleurs. Tu vas plutôt chercher à faire tes preuves, avoir tes premiers clients, comprendre ton marché, etc. Et ensuite, bah, il y a pas mal de subventions qui existent en fonction de différents critères d'âge, de nationalité, de catégorie, etc. Et c'est vrai que bon, l'accès à l'information n'est pas toujours facile, mais il y a pas mal de choses qui existent. Donc en termes de prêts à taux zéro, de subvention, il y a aussi tout ce qui est concours, et il y a aussi tout ce qui est comment dire les incubateurs, les accélérateurs, des choses comme ça, qui sont des outils qu'on peut aussi intégrer, mais dans tous les cas, avant d'obtenir des fonds, avant d'obtenir de l'aide de ce type de structure, il faut quand même déjà avoir mis un pied dans le plat et prouver que bah, mon entreprise, mon produit, il a du potentiel. Et donc, comme j'ai déjà quelques clients, j'ai déjà vendu quelques unités, j'ai besoin maintenant que vous me filiez un coup de main pour pouvoir développer et investir. La banque, ce sera pas forcément le premier. La banque africaine, en tout cas, c'est pas le premier interlocuteur quand on est jeune entrepreneur. C'est trop risqué, trop risqué, trop cher.
Merci d'avoir répondu, d'avoir touché à ce sujet. Quand je posais la question, c'était pour les gens qui veulent acheter une maison. ou un appart ou pas mais bon c'est quand même intéressant que tu aies parlé de
oui moi j'ai parlé
du financement de l'entreprise. Ça va servir à aux personnes qui sont intéressées. Je parlais plutôt de moi par exemple. Je veux acheter une maison au Sénégal et j'ai pas forcément 100 millions, ouais. 200 ouais. millions. Et les taux, moi je j'entendais parler de 10%, ce qui oui. est crazy pour moi. Oui. Et donc c'était pour savoir en tant qu'acheteur d'immobilier de la diaspora. Est-ce qu'il y a des programmes en place ou dans ton expérience, comment tes clients en fait financent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient, la plupart ils viennent, ils ont leur cash, you know, est-ce que tu ouais. as cette information là pour que les gens qui nous écoutent, qui veulent investir et qui n'ont pas forcément tout le cash, si tu as une idée de
moi ce que je constate dans ma clientèle, c'est que il y a pas mal de gens de la diaspora qui ont de l'argent, qui ont des super jobs, qui arrivent à économiser et qui vraiment arrivent à investir 20 millions, 30 millions, 40 millions. C'est pas tout le monde. Après, il y a mm-hmm. ceux qui mettent aussi en place des stratégies de tontine, parce que ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, beaucoup dans notre communauté, mm-hmm. Pour rassembler un billet et avec cette intelligence de faire des tontines qui vont permettre d'investir. Donc, un peu l'idée du prêt zéro, mais qu'on va pas bouffer ça après quand on aura nos sous. On va vraiment le garder et puis pour pouvoir investir. Et il y a pas mal aussi de mes clients qui sont entrepreneurs. Donc, mm-hmm. pareil, ils ont les moyens. Clairement, il y a de l'argent dans notre communauté.
Ouais.
Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui arrivent à financer leurs biens immobiliers ou leurs investissements. Ouais, ça c'est une réalité. Maintenant, c'est vrai que pour acheter, il y en a pour qui ça coince parce que pas la possibilité d'emprunter au Sénégal, comme on vient de le dire, et en mm-hmm. même temps, j'ai que la moitié de mon financement et je suis déjà propriétaire en France, donc c'est une vraie question. Et nous, dans le projet de DEME, déjà là sur les terrains, on fait des modalités de paiement parce que justement on a pris en compte cette difficulté la particulière qu'on a quand on est de la diaspora. Et la construction des maisons, c'est pareil, ça va être, il va y avoir, en tout cas on travaille là-dessus sur la possibilité d'étaler les paiements pour que les gens n'aient pas besoin d'emprunter et qu'ils puissent en même temps avancer dans la construction. Mais c'est un vrai défi, c'est ouais, je sais pas répondre précisément parce qu'après c'est chacun dans sa stratégie va réussir à trouver le financement, mais les banques c'est pas évident. Après il y a des banques qui comme la BHS sont là aussi pour aider la diaspora, donc qui proposent des choses comme par exemple le fait de souscrire à leur PEL pendant 3-4 ans, ce qui va te permettre à la fin de pouvoir obtenir un prêt à un taux plus bas que ces fameux 10%, mais on va ouais. être quand même encore à des 5-6%, ce qui est pas beaucoup pour ici. Et ça, pour moi, ça reste une option, mais ça suppose de préparer le projet quand même assez longtemps à l'avance, parce que voilà, s'il faut cotiser déjà pendant 4 ans dans le PEL, ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper quoi ouais. son projet. Mais c'est une option. Et je sais que les banques, en fait, elles essayent de prendre en compte cette diaspora pour pouvoir lui apporter des solutions de financement. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai rien trouvé de satisfaisant pour du côté des banques pour financer l'achat d'un bien immobilier, quoi. À part à des taux pas possibles.
Exorbitants, ouais. Non, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et on voit beaucoup de moi-même, je me suis fait arnaquer sur. Je croyais avoir acheté un terrain, mais bon, longue histoire. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer sur des histoires de terrain, sur des histoires de maison. Si tu avais des conseils à donner aux investisseurs, comment on peut éviter de se faire arnaquer quand on achète de l'immobilier au Sénégal?
Alors, c'est vrai que ça, c'est une problématique que beaucoup de mes clients ont déjà rencontrée. malheureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ça a l'air simple d'acheter un terrain, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et des fois, quand on confie l'achat de son terrain à un membre de la famille, à quelqu'un en qui on a confiance, il y a deux cas de figure. Soit la personne, elle t'escroque en âme et conscience, parce qu'elle se dit que de toute façon, c'est pas grave, t'es riche, tu vas avoir plein de dollars encore pour remplacer ceux que tu viens d'envoyer là. Soit la personne elle-même, elle n'a pas connaissance et elle se fait arnaquer. Parce que quand tu achètes un terrain, en fait, il y a des étapes de vérification qu'il faut faire avant de te lancer avec le vendeur. Donc, typiquement, tu vas d'abord aller au niveau de la mairie, voir si le vendeur, c'est bien le vendeur, si le terrain, il lui appartient bien. Parce que dans le registre foncier de la mairie, si jamais le terrain, il appartient à plusieurs personnes, ce sera visible. Voilà, ce type de vérification, tu peux aller aussi au niveau du terrain lui-même avec un géomètre. Donc, effectivement, quand tu n'es pas sur place, c'est encore aussi la difficulté d'avoir confiance en la personne. Il faut prendre un professionnel, etc., pas le cousin, machin, qui va sur place regarder le terrain. Est-ce qu'il fait bien 300 mètres carrés? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un panneau qui est planté là qui prouve qu'il appartient déjà à quelqu'un, etc., etc. Et puis bien prendre l'identité de la personne, faire les documents en bonne et due forme, faire ton acte de vente, faire ta mutation rapidement, parce que c'est au moment de la mutation aussi que tu vas voir si le terrain il appartient à plusieurs personnes. C'est-à-dire que quand toi tu vas venir à la mairie en disant ben voilà, j'ai acheté ce terrain et donc je vais le mettre à mon nom, et c'est là qu'on va te dire ah mais non mais madame c'est pas possible.
Donc ça c'est des choses
sur... voilà, c'est des choses sur lesquelles faut pas traîner, faut enclencher les procédures assez rapidement et voilà, essayer de d'avoir un maximum de garanties, de passer par des professionnels. Aujourd'hui, voilà, nous, on est là, mais il n'y a pas que nous. Il y a pas mal d'agences comme ça qui se sont professionnalisées et qui sont des vrais partenaires de confiance. Donc, essayez vraiment de passer par ces entreprises-là, par ces professionnels-là, parce que les gens, même s'ils sont de bonne volonté, parfois ils se font arnaquer. Hein. Le risque, il est partout. Sur la petite côte, les terrains sont très très prisés. Donc ça va vite, ça va vite de se faire arnaquer si t'es pas un minimum alerte sur voilà les démarches administratives, les vérifications. Est-ce que la personne elle te présente, qu'est-ce que la personne te présente comme document aussi quand elle te vend? Est-ce qu'elle a un acte administratif original à son nom? Est-ce que ça correspond bien à la pièce d'identité que cette personne te présente? Est-ce que il y a un plan? Sur le plan, est-ce qu'il y a un NICAD? Le NICAD au niveau du cadastre, est-ce qu'il est correct? Tu vois, c'est des petits indices. En fait, tu fais la détective. Tu essayes de recouper les informations pour être sûr que, OK, ça m'a l'air sûr. Mais derrière, tu traînes pas et tu fais tes démarches aussi quand même pour te protéger.
Il faut vraiment le faire soi-même et se faire accompagner par des professionnels, quoi.
Ouais, surtout si t'es pas sur place. Après, effectivement, hein, c'est toujours mieux de venir quand tu construis. C'est quoi que tu fasses, que tu veuilles construire, acheter, que tu veuilles lancer une entreprise, bah ouais, il faut toujours quand même prendre le temps de venir sur place, de checker par soi-même. C'est comme ça que tu vas te rendre compte aussi de certaines choses. Tu peux aller toi-même faire tes démarches. On t'a dit ça. On t'a dit, bah oui, à la mairie, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller toi-même. Faut essayer de prendre ça en compte aussi, de faire son achat, mais de se dire, OK, je prévois aussi un billet d'avion parce que je vais aller quand même vérifier ce qui se passe pour être sûr que tout est OK, quoi.
Ouais. Yeah, c'est pas facile. Et je sais que tu es sur la petite côte et tu fais business sur la petite côte, mais à ton avis, quels sont les meilleurs endroits où investir au Sénégal dans l'immobilier? On sait que Dakar c'est saturé. À part la petite côte, d'après ton expérience dans le secteur, Est-ce qu'il y a des endroits qui sont pas encore saturés, qui commencent, que les gens commencent à connaître, où on pourra, je sais pas si tu peux partager ça, où on pourra, on a toujours la possibilité d'avoir des prix raisonnables, des coins qui vont bouger plus dans le futur. Est-ce que tu en connais?
Bon, c'est vrai que moi, je connais surtout la petite côte parce que je vis ici et que je travaille ici. Après, bon, il y a le secteur de Diamniadjo quand même, hein, qui est toujours en plein développement. Donc, je pense que voilà, il y a pas mal de personnes qui cherchent encore à investir là-bas. Et après, bon, je connais pas les tarifs, honnêtement. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qui se passait à Diamniadjo. Puisqu'avant, on faisait de la prospection un peu partout. Mais comme on s'est après vite spécialisé, j'ai plus trop connaissance des autres marchés. Mais je pense déjà, il y a Diamniadjo. Il y a aussi tout le secteur autour de l'aéroport.
Ouais, c'est encore super super vide là-bas. J'avais entendu dire que...
Bon, les prix grimpent quand même.
Ouais.
Les prix grimpent quand même, mais c'est des bons secteurs, ça.
Ouais. Il y a la Cité des Nations Unies qui se construit là-bas. Je ne sais pas si tu connais.
Oui, si, mais ils ne sont pas plutôt à Diamniadjo?
Oui, je parle de Diamniadjo.
Ok.
Je parle de Diamniadjo. Donc... j'avais entendu dire qu'il y a des problèmes avec le sol.
Ah.
Donc, je me suis dit, pourquoi ils continuent à... voilà, que j'avais, je sais plus, c'était quoi là. Genre, c'est pas forcément fait pour les maisons qui avaient des soucis de, comment on dit, flooding, d'inondation ou des choses comme... Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est des trucs que j'ai entendu sur les réseaux parce
ça,
que je me dis.
Je ne sais pas.
Ouais. C'est pour ça que j'hésitais, en fait, parce qu'il y a des projets d'appartements et tout. Et donc, je me disais que bah c'était un secteur, un coin où ce serait intéressant d'investir parce qu'on va avoir la Cité des Nations Unies.
Bien sûr.
Il y a la possibilité de faire des Airbnb parce que c'est tellement proche de l'aéroport et tout. Mais c'est ce qui m'avait un peu stoppé, c'était les histoires que j'entendais par rapport à la qualité du sol ou quelque chose comme ça.
Honnêtement, j'ai pas connaissance de ça, donc je vais pas dire de bêtises.
Ouais.
Mais ça c'est des choses que tu peux vérifier. Hein, je sais pas, c'est au niveau des services de l'État. Je pense que tu peux vérifier justement sur les zones inondables ou pas. Après, la qualité du sol, je pense que c'est surtout le fait que le constructeur doit avoir connaissance de la qualité du sol pour savoir aussi comment construire. C'est-à-dire que encore une fois, le constructeur, il faut qu'il soit, qu'il connaisse son boulot, quoi.
Ouais.
C'est pas quand tu construis, c'est pas un maçon que tu vas prendre et qui va monter des briques.
Mm-hmm.
Effectivement, il y a une étude du sol à faire pour savoir quel type de sol et du coup quel type de fondation je dois faire sur ce sol. Est-ce que je dois construire un petit peu en hauteur parce que justement il y a un risque d'inondation, je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est. Quand on n'est pas professionnel, c'est difficile de détecter tout ça. C'est pour ça que quand on s'entoure de pros, il faut vraiment que ce soit des vrais pros, des architectes, des vrais constructeurs et tout. Parce que des fois aussi, l'erreur qu'on fait quand on est à l'étranger, bah, c'est ça, quoi. C'est qu'il y a un maçon qui bosse bien, mais le maçon, il est bon peut-être dans son domaine, mais ça veut pas
mais
dire
il n'est pas architecte, il n'est pas... Ouais.
Exactement, tu vois. Donc, c'est de ne pas essayer d'économiser, en fait, sur les compétences et vraiment s'entourer de vraies compétences. Ça coûte plus cher, mais derrière ton bien, tu es sûr qu'il sera de qualité.
Absolument, c'est très important. Alors, on va pivoter un peu. J'aimerais parler de ton association Réparer les filles.
Oui.
Parle-nous-en un peu. Pourquoi tu as choisi de créer une association? Donc, c'est une association qui aide les jeunes filles victimes de mutilations génitales, n'est-ce pas? Pourquoi avoir choisi cette association et quel est ton objectif?
Alors, pas que les jeunes filles, les femmes d'une manière générale. Il n'y a pas, voilà, c'est pas aussi segmenté. Mais c'est vrai que, en Afrique de l'Ouest, hein, qu'on soit de la diaspora ou qu'on soit ici, on est nombreuses à avoir subi des mutilations sexuelles. Moi, je fais partie de ces femmes-là qui ont subi des mutilations sexuelles. Donc, ça a été très compliqué pour moi pendant longtemps. Et j'avais toujours cette rage.
Ouais.
Et avec le... Bon, j'ai travaillé sur moi, psychologue, réparation, machin et tout. Mais avec le temps, il faut faire quelque chose de cette énergie qui te dévore, en fait. Ouais. Et moi, j'ai toujours, bon, moi, je suis féministe et j'ai toujours voulu apporter ma pierre à l'édifice, mais je savais pas trop comment. J'avais des idées, j'avais beaucoup d'ambition même, parce que mon ambition actuelle, ça reste encore de créer carrément une fondation. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi, voilà, je vais pas attendre d'avoir mes 50 ans, d'avoir de l'argent pour créer quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens du bord? C'est ce que je disais tout à l'heure, les entrepreneurs, on commence avec les moyens du bord. Et c'est comme ça que moi, tous mes projets, je les démarre. Et je me suis dit, bah tiens, je pense que ça peut être intéressant de déjà, dans un premier temps, de pouvoir parler de ça avec un professionnel, un thérapeute, parce que la parole, ça soulage, ça guérit et ça permet d'avancer. Voilà. Et moi, à mon niveau, c'est quelque chose que je peux financer déjà dans un premier temps, à petite échelle. Ça me demande pas une logistique, voilà. Ça me demande d'avoir une bonne psychologue qui bosse avec moi, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et de dire aussi si vous avez besoin, eh ben voilà, vous pouvez prendre rendez-vous et puis basta. Donc c'est simple à mettre en place et ça me permet de mener ce combat qui m'est cher. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place. Bah, c'était l'année dernière, c'était en janvier 2022 qu'on a démarré de façon informelle parce que j'ai un peu galéré à créer l'association. Je voulais la créer au Sénégal, j'ai galéré et puis finalement à l'écrire en France. C'était finalement beaucoup plus simple. Et puis j'ai voilà, c'est une amie qui m'a aidé à formaliser ça aussi. Donc là voilà, c'est une petite association, c'est une petite initiative. Mais c'est voilà, apporter ma pierre à l'édifice dans ce combat contre les violences qui sont faites aux femmes.
Et au Sénégal, est-ce qu'il y a des lois qui ont été... je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui... ONU Femmes et tout, qui œuvrent pour la fin de... pour que ça s'arrête. Hein. Tu sais s'il y a des lois en place pour ça? Est-ce que c'est criminalisé ou est-ce que c'est des pratiques qui sont toujours là où il y a...
Je réfléchis parce que je sais qu'en Gambie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une loi qui est passée justement pour interdire. Et au Sénégal, je ne te cache même pas que je sais même
je
pas.
Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose.
Je ne suis pas allée voir en vrai. Je ne suis même pas sûre, mais je vais vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une pratique qui existe toujours. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, ouais, vraiment. Voilà, moi, c'est vraiment ça aussi, c'est que bon, tu sais, hein, il y a les discours, il y a les politiques et tout, et il y a la réalité. Et en réalité, il y a beaucoup de pratiques qui perdurent parce que les gens, en fait, ils sont dans un système de reproduction, ils savent même pas pourquoi ils font les choses, mais ils continuent de les faire parce qu'ils s'imaginent que il faut continuer de le faire. Voilà. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas consulté les chiffres pour savoir comment ça évolue, parce que forcément, il y a quand même une évolution. Il y a quand même un boulot qui est fait et que ça porte un peu ses fruits, mais c'est bien sûr insuffisant. Ouais, le combat, il est loin d'être terminé en la matière.
Ouais, malheureusement. Ouais. Malheureusement. En plus de ton agence immobilière et de ton association, tu as également une entreprise de location de voitures. Oui. Comment tu fais, tout à l'heure, tu nous as dit que tu délègues beaucoup, mais si tu avais un ou deux conseils à donner à des gens comme toi, des femmes comme toi qui portent multiples casquettes pour gérer la vie de maman, la vie d'entrepreneur, avoir multiples entreprises, si tu as des conseils à donner pour la gestion du temps, comment être successful?
Je dirais qu'il faut connaître ses priorités et ne pas se noyer dans des choses qui sont pas importantes, qui sont futiles, qui peuvent être faites par des gens plus compétents et qui ont plus de temps. La délégation, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça coûte de l'argent, mais ça fait gagner de l'argent et du temps et de l'énergie. Donc moi, la maison, je fais pas le ménage, j'ai une femme de ménage, j'ai du personnel de maison en fait que je paye pour déléguer toutes les tâches domestiques. Ça me permet déjà de gagner énormément de temps. Au boulot aussi, j'ai des équipes et j'hésite pas à payer des gens pour des missions des fois aussi ponctuelles parce que ce que je fais, c'est que moi, je fais ce dans quoi je suis bonne. Et tout le reste, je paye les gens pour le faire. Donc, ça me permet également de dégager beaucoup de temps. Je peux me permettre de parler comme ça aujourd'hui parce que j'ai dépassé différentes étapes. C'est vrai qu'au début, on était deux avec Amadou et on faisait tout nous-mêmes, donc c'était très difficile. Je sais aussi que avec le temps, en fait, on a pu dégager suffisamment de revenus pour justement pouvoir déléguer. Donc, je ne dis pas que c'est facile dès le départ quand tu démarres de déléguer, mais quand même, moi, j'ai beaucoup utilisé au début des sites comme 5euros.com, qui sont des sites où tu peux avoir des prestataires qui vont t'offrir des microcrédits avec des tarifs très abordables. Et donc, sur des petites choses, même si t'es pas riche, tu peux déléguer et vraiment, vraiment, vraiment déléguer, ça permet de gagner de l'argent. Donc, voilà, c'est des petites astuces comme ça et être au clair avec ses priorités, quoi. Il y a des choses qu'il faut faire. C'est important, mais il y a des choses qui peuvent il y a pas mal. Bon, moi je sais pas si tu as lu le livre La semaine de 4 heures.
Non.
De Tim Ferriss, en fait, il t'explique justement comment déléguer au maximum pour travailler le minimum mais de façon la plus optimisée, la plus efficace. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup beaucoup dans cet état d'esprit. Je travaille sur les choses très importantes et il y a des choses que je vais limite laisser tomber parce que c'est pas grave et qu'il y aura rien d'extraordinaire qui va se passer, donc je suis pas obligée de et puis aussi ce qui est important, c'est de bien compartimenter son temps et de ne pas s'éparpiller. Typiquement, faut pas regarder ses mails tous les jours, le matin, le midi, les soirs. Il faut regrouper. Et le mercredi matin je traite mes mails, le vendredi matin je traite mes mails. Mais c'est pas toute la journée où je vais voir parce que sinon ça va me déconnecter de ce que je suis en train de faire et je vais perdre en efficacité, etc., etc. Donc essayer de rassembler, d'être plus efficace dans la manière de travailler. Là, je me concentre pendant 2 heures sur un sujet, j'éteins mon téléphone, j'éteins mes notifications et je me concentre à fond là-dessus. Et je vais pas sur autre chose parce que quand on se déconnecte d'une activité pour aller faire autre chose, on perd beaucoup de temps à reprendre son activité. Donc
c'est mon challenge, ça.
Ouais. Ah ouais.
Ouais, ça, absolument. J'ai besoin d'aide. J'ai même pris un rendez-vous. En fait, mon rendez-vous c'est lundi matin pour aller voir si j'ai pas, parce que mon fils il a un TDAH. Je sais pas si tu connais. Je connais le nom en anglais, c'est ADHD. Je sais qu'en français, ça s'appelle TDAH. J'ai eu un épisode sur ça. Trouble de l'attention avec hyperactivité. Je me suis dit, attends, je suis tellement distraite que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et souvent, les gens, les enfants qui ont ça, un de leurs parents là, ou c'est dans la famille. Je me suis dit, mais soit je suis juste distraite ou j'ai ça. Donc, lundi, je vais aller voir. Mais c'est vrai que je vais lire le livre que tu as. Donc, La semaine de 4 heures, tu as dit. C'est un challenge pour moi. C'est absolument un challenge pour moi. Je vais commencer une tâche qui est très importante et que je sais qu'elle est importante, qu'il faut que je la finisse. Et je vois un truc ou bien un truc me passe par la tête. Ça y est, c'est fini. J'interromps ce que je fais. Et puis je fais autre chose, donc c'est un challenge
Moi, je parle comme ça veut pas dire que tout est carré, hein. Des fois, moi aussi, j'ai une tendance à, et comme je suis dans plein de projets, mais régulièrement quand même, j'essaye de me rediscipliner, de me faire des petites séquences de travail très efficaces. Tu vois, moi, on est en constante recherche de l'équilibre. C'est jamais facile, mais vraiment, quand on trouve des petits trucs qui fonctionnent bien, il faut les garder. Moi, je sais que le matin, je suis très productive. J'ai plus tendance à carburer le matin, à pas mettre de rendez-vous trop le matin pour pouvoir carburer, parce que je sais que je vais avancer beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien chez moi. Donc, maintenant que je sais ça, je vais organiser mon temps aussi comme ça. Voilà, des petites astuces qui fonctionnent, il faut les garder précieusement et les appliquer.
Ouais, absolument. Je vais définitivement lire le livre.
Ouais, et puis t'as des petits bouquins sur la gestion du temps, des choses comme ça. Moi, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, voilà, sur toutes ces questions-là, je lis. Et puis, dans chaque lecture que je fais, j'arrive à trouver quelque chose que j'applique. Donc, ça fait des petits changements, mais ça fait des fois la différence.
Mmh. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça aide, ça aide.
Ouais.
Bah, écoute, une dernière question. Comment les personnes intéressées peuvent-elles soutenir ton association Réparer les filles?
Ah oui, c'est une bonne question parce que justement, même l'année dernière, j'avais des personnes qui voulaient faire des dons et je leur disais, bon, tant que l'association n'est pas formalisée, je préfère pas. Mais aujourd'hui, ça va être possible. J'ai la chance en plus d'avoir un petit groupe de nanas qui tout de suite m'a dit, des étudiantes, mes nièces et puis même une personne que je connaissais pas à la base qui m'a dit, mais comment je peux t'aider? Donc là, en fait, on va mettre en place un compte sur Allo Asso ou Hello Asso plutôt, je crois, qui va nous permettre justement via cette plateforme d'avoir des dons. Et on en a parlé il y a une semaine, je crois, donc c'est pas encore mis en place, mais ça va être mis en place. Et de toute façon, en attendant que cet outil-là soit mis en place, il faut nous contacter sur Instagram. Là, il y a une page pour réparer les filles dans les DM. Et voilà, comme c'est pas une grosse activité, j'ai un message dans les DM, je le vois et ça me permet d'être en relation directement avec les personnes qui sont intéressées par le projet. Et comme justement j'ai ma petite bande de nanas là qui sont opérationnelles, elles vont m'aider à vraiment à structurer tout ça dans les prochaines semaines pour qu'on puisse après développer, avoir plus de moyens, développer, mieux communiquer et justement mieux toucher notre cible, qui sont ces femmes qui ont subi ça il y a longtemps, il y a pas longtemps, elles sont jeunes, elles sont moins jeunes, mais elles ont besoin de discuter quoi.
Ouais. Et je me rends compte que je t'ai pas demandé comment tu les aides. Quand je vois le nom, je me dis que, enfin, moi, j'ai des amis qui, ouais, on en a pas parlé et je m'en excuse. On va en parler. Je sais que, mes amis, quand j'étais étudiante en France, souvent les filles qui arrivaient c'était plus les filles qui arrivaient de Djibouti, de la Somalie, majoritairement et je sais qu'à Metz c'était l'hôpital militaire de Metz qui avait des docteurs qui avaient cette expérience là qui s'occupaient de faire la réparation gratuitement en fait et est-ce que c'est dans cette de ce côté-là que tu aides les filles? Qu'est-ce que tu fais les filles et les femmes comment l'association les aide?
Alors nous c'est une réparation psychologique puisqu'on met à disposition en fait des séances de psychologie pour pouvoir en parler. Mais effectivement, dans la perspective de développement de cet asso, on aimerait, j'ai une de mes nièces là qui bosse sur l'asso maintenant, qui est sage-femme par exemple. Voilà, on aimerait aussi justement pouvoir orienter ces filles-là vers des solutions de réparation physique quand elles le veulent. Parce que pareil, moi j'étais en région parisienne à l'époque là, le docteur Foldès, c'est lui qui, je pense, c'est le premier à avoir vraiment agi et qui a formé après pas mal de médecins dans la réparation du clitoris justement. Mm-hmm. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on aimerait pouvoir faire, c'est-à-dire les orienter. Mais au niveau de l'asso, ce qu'on fait, c'est uniquement des séances de psychologie parler de ce trauma et puis essayer d'avancer avec ça.
Ouais. Et puis c'est la partie psychologique même, elle est super, super importante, hein, importante pour qu'elle puisse avancer.
De toute façon, ça va de pair. Pour moi, ça va de pair. La réparation physique et psychologique, c'est vraiment très important. On a tendance à garder, en plus c'est un sujet tabou, donc voilà. C'est
très tabou.
Très difficile. D'en parler, mais il faut absolument libérer la parole à un moment ou un autre. Et c'est pour ça que chez Réparer les filles, en fait, on garantit vraiment la confidentialité, l'anonymat des patientes. Moi, je sais même pas qui ils sont. Bah oui, parce que je sais que c'est compliqué d'en parler. Donc voilà, je veux qu'elles aient vraiment l'assurance qu'elles sont dans un lieu sécurisé et qu'il n'y a pas de problème. Demain, on mettra en place des groupes de parole. Ça, c'est prévu avec la psychologue et tout. Où là, pour les filles qui sont plus à l'aise et qui veulent partager, parce que ça aussi, des fois, c'est pour certaines, c'est aussi plus simple. Ça, c'est des choses qu'on proposera, mais on n'a pas encore. On n'en est pas encore là, on va dire.
Ouais. En tout cas, c'est c'est sûr que ça va aider beaucoup de personnes parce que je pense que la plupart du temps, on n'en parle pas parce que c'est ta famille qui donc c'est quand même c'est quand même délicat,
c'est très délicat. Il y a de la culpabilité, il y a des conflits de loyauté. On veut pas heurter, on veut pas blesser, mais on peut en parler en fait. Bon, c'est pas facile, hein. Je suis passée par là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on parle pas pour accuser, mais on parle pour se réparer. Et c'est important. On apprend trop aux femmes africaines à se sacrifier, à prendre sur soi, machin. À un moment donné, c'est des questions de santé mentale. Donc, non, il faut parler. Il faut dire stop. Il faut dire ça ne va pas. Et on peut guérir et avancer et déposer le paquet sans trahir la famille, etc. C'est possible. C'est vraiment possible.
Ouais, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler.
C'est avec plaisir.
Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite le meilleur pour toutes tes entreprises.
Merci.
Et on mettra les liens d'Aimé et l'association et tout dans les notes du podcast pour que les gens puissent savoir comment te joindre, ceux qui sont intéressés. Donc, merci beaucoup d'être passé par Digenu Diaspora.
Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment super. C'est important d'avoir ce genre de conversation entre femmes.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode à cause de la fête de l'Aïd. On se retrouve le vendredi 28 avec un épisode avec Nancy Seck, fondatrice de la marque de fashion Kani Fashion. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.